À l'institut où je travaille, j'avais il y a quelques années un collègue, Tom Blanchard, qui est professeur d'Ancien Testament, et lui, il parlait des pages blanches de la Bible, ou les pages passées au Tippex. Vous savez, on passe avec du blanc. Et en fait, il parlait de tous ces textes de la Bible que, quand on est dans notre lecture personnelle, on saute allègrement parce qu'on n'y comprend pas grand-chose ou parce qu'on s'ennuie, mais souvent on s'ennuie parce qu'on comprend pas. Je pense par exemple au Lévitique, au Livre des Nombres, au Livre des Chroniques, les petits prophètes aussi, souvent on zappe. Et il y a de nombreux autres passages de l'Ancien Testament. Et je pense que dans la Bible, là où il y a le plus de pages blanches, c'est-à-dire de pages qu'on passe comme ça, la plupart se trouvent dans l'Ancien Testament, il faut le reconnaître. Et je sais que chaque année, les étudiants avaient beaucoup de plaisir à écouter Tom, parce que justement, ils apprenaient énormément de choses, puisque c'était des passages avec lesquels ils étaient moins familiers. Alors ce matin, je vous propose de plonger notre regard dans le livre du Lévitique. Alors je vous rassure, on ne va pas parcourir tout le livre, mais je vais juste faire un petit survol et je vais donner quelques éléments de base avant de faire la lecture du texte pour qu'au moment où je lise le texte, vous puissiez en profiter un minimum. Parce que vous savez, quand on lit le livre du Lévitique, ce n'est pas forcément passionnant à lire. Il y a toute une série de descriptions de rites, les uns plus compliqués que les autres. Et c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va en faire aujourd'hui, puisque nous, on ne fait plus ça. Je pense pas que vous avez fait un sacrifice cette semaine, du moins je l'espère pas, en tout cas pas un sacrifice sanglant. Peut-être vous avez tué un moustique, mais c'était pas dans le but de le sacrifier. Et c'est vrai, quand on a ces listes sous les yeux, on se demande, mais nous qui sommes des croyants de la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ces textes? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment encore utile aujourd'hui? Et vous allez voir que c'est très utile encore et que ça nous aide à comprendre d'autres éléments de la Bible. Parce qu'il faut pas oublier, hein, Paul est très clair quand il écrit à Timothée, il dit « car toute écriture est inspirée de Dieu ». Utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ou encore en Romains 15, il dit « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, donc il fait principalement référence ici à l'Ancien Testament, l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » Hein, ça a été écrit pour nous encourager, pour faire grandir notre patience et pour nous faire grandir dans l'espérance. Mais comment le livre du Lévitique peut-il remplir cette fonction? C'est assez surprenant de prime abord. L'auteur de l'épître aux Hébreux déclare que la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. L'ombre des choses à venir. En fait, dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses qui sont écrites sont comme des ombres. Imaginez que vous ayez un camion dans la rue et vous êtes un passage piéton. Et pour l'instant, vous ne voyez que l'ombre projetée de ce camion. Ça, c'est un peu ce que fait l'Ancien Testament. On a une ombre projetée. Et quand le camion arrive au niveau du passage piéton, là, vous avez la réalité. Donc avant, c'était l'ombre de la réalité. Et maintenant, vous avez en pleine lumière le camion qui est là. D'ailleurs, si vous étiez allé de l'avant, sur le passage piéton, l'ombre ne vous aurait pas fait de mal. Mais une fois que le camion est là, c'est une autre affaire. Mais on passe de l'ombre à la lumière. De l'ancien vers le nouveau, on passe de l'ombre à la lumière. Mais attention, on parle d'une même réalité. L'ombre, c'est déjà l'ombre de la réalité du camion. Et quand vous êtes là et que le camion est devant vous, vous avez le camion lui-même. De l'ombre à la lumière. On va voir vers quelle réalité pointe le livre du Lévitique et en particulier le chapitre 16. Alors, ce texte va nous servir pour notre plan, On va d'abord faire un grand angle sur le cadre général du récit. On va d'abord s'intéresser au livre du Lévitique. Je vais juste vous donner deux, trois éléments pour vous aider à naviguer dans ce livre. Ensuite, on fera un zoom sur le chapitre 16 qui nous intéresse aujourd'hui, que j'ai intitulé « L'ombre des biens à venir ». On va parler d'une réalité dans ce chapitre et cette réalité va être mise en lumière dans le Nouveau Testament. Et ça sera notre troisième point, la lumière de la réalité vers laquelle pointe Lévitique 16. Et bien sûr, nous finirons par des implications pratiques pour nous, aujourd'hui, croyants du XXIe siècle. Alors, le grand angle. Première chose, le Lévitique, c'est une parole qui a été transmise par Moïse. Il est dit à 32 reprises, le Seigneur parla à Moïse. Donc, ce sont des choses que Dieu a dites à Moïse, que l'on trouve ici consignées dans ce livre. Et le livre du Lévitique s'inscrit dans la suite logique du livre de l'Exode. À la fin du livre de l'Exode, il y a la tente de la rencontre, le tabernacle qui est construit. C'est le lieu de culte mobile que le peuple d'Israël avait. Et maintenant apparaît la nécessité de réglementer les sacrifices et les offrandes du sanctuaire. En fait, le tabernacle symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le tabernacle symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Israël est une nation sainte, c'est-à-dire qui se tient dans la présence de Dieu et qui a pour vocation de lui rendre un culte. Quand on dit qu'Israël est une nation sainte, ça veut dire qu'elle doit rendre un culte à son Dieu. Le peuple campe au pied du mont Sinaï, dans le désert du même nom, et ce depuis Exode 19. Et c'est durant cette période que se déroulent les événements du Lévitique. Attention, j'ai essayé. Voilà, on est au pied du mont Sinaï, qu'on appelle aussi le mont Horeb. Alors, une petite précision par rapport au mot « saint ». Souvent, on entend que « saint », ça veut dire « mis à part ». Mais en fait, ça ne veut pas dire ça. Le mot « saint » ne signifie pas « séparé » ou « mis à part ». Quand cet adjectif est utilisé par rapport à des lieux, si on dit « ce lieu est saint », si on dit que cette personne est sainte, ou si on dit que cet objet est saint, c'est pas le cas ici, mais si on dit d'un objet qu'il est saint dans le Lévitique ou dans la Bible, ça veut dire qu'il est consacré au culte de l'Éternel. Saint, ça veut dire consacré au culte de l'Éternel. Dire que le peuple est saint signifie qu'il a pour fonction de rendre un culte à Dieu. Israël est un peuple saint, ça veut dire qu'il a pour responsabilité, pour fonction de rendre un culte à Dieu. Et qu'il vit dans sa présence. Et dire que l'Éternel, que Dieu est saint, c'est dire qu'il fait l'objet de ce culte, qui est réservé à Dieu seul. Cela peut aussi signifier qu'il en est digne à cause de ce qu'il est, de sa transcendance. Il est le tout autre, il nous dépasse, on l'a chanté tout à l'heure. Et on fait aussi référence à ses attributs moraux. Dieu appartient au domaine du sacré. Et on ne peut pas entrer en relation avec Dieu de n'importe quelle manière. Il faut respecter certaines règles, les règles de sainteté. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre du Lévitique, les règles de sainteté. Parce que Dieu a fait sa demeure au milieu du peuple et maintenant, il faut savoir comment s'approcher de ce Dieu. Et c'est à cette question que répond le livre du Lévitique. Comment s'approcher de Dieu qui vit au milieu de nous? On ne s'approche pas n'importe comment. Et c'est lui qui fixe les règles. Et c'est ces règles de sainteté qu'on trouve dans le livre du Lévitique. Et il faut savoir que c'est la sainteté de Dieu qui fait la gravité du péché. Et la sainteté, c'est vraiment le thème central de ce livre, puisque ce mot revient à 150 reprises. 150 fois, il est question de sainteté. Le thème central, je dirais, pour nous qui lisons le livre, c'est « Soyez saints, car je suis saint ». Et c'est la sainteté de Dieu qui fait la gravité du péché, la nécessité du sacrifice. Parce qu'en fait, quel est le problème? L'être humain est pécheur. Et le péché entraîne une souillure, nous rend impurs. Et comment s'approcher, comment une créature impure peut-elle s'approcher d'un Dieu saint? Ben c'est à cette question que répond le livre du Lévitique. Parce que la pureté est un état qui rend apte à être en contact avec les choses saintes et avec le Dieu saint. C'est pas la même chose, la pureté et la sainteté. La pureté est donc une condition pour la sainteté. Pour s'approcher du Dieu saint, il faut être pur. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc Lévitique aborde la question de la façon dont les êtres humains doivent vivre et peuvent vivre dans la proximité du Dieu saint. Maintenant, on va faire un zoom. Donc ça, je l'ai dit, hein, le péché entraîne une souillure et qui rend la proximité avec Dieu dangereuse. Parce que on pourrait dire, ah, c'est chouette, Dieu habite au milieu d'eux. Mais qu'est-ce que les Israélites connaissaient de Dieu? Quand Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Horeb, tout le monde tremblait. Vous étiez déjà en montagne quand il y a un orage? Sur le mont Horeb, il y avait des tonnerres, des éclairs. Et pour Moïse, c'était pas rigolo de monter là-haut et le peuple, il vivait dans la crainte. Alors imaginez quand ils ont appris que Dieu allait faire sa demeure au milieu d'eux, ils se sont dit, mais qui va survivre? Et c'est pour ça qu'il y a le livre du Lévitique, pour leur dire comment vivre dans la présence de Dieu. C'est aussi simple que ça, même si les rituels pour vivre dans la présence de Dieu, eux, peuvent paraître assez complexes. Parce que un pécheur qui se retrouve face à Dieu, c'est la mort. Donc c'est un peu comme si du jour au lendemain, on vous disait, tiens, on a installé une centrale nucléaire devant chez vous. Franck, qui a travaillé dans les centrales nucléaires, il sait qu'il ne faut pas trop s'exposer. Il y avait un nombre d'interventions limitées dans l'année. Ben là, c'est un peu pareil, hein. On se retrouve dans une situation, on se dit, ben, c'est chouette, Dieu est avec nous, mais en même temps, qui va survivre dans la présence de Dieu? Et donc, on a tout un livre dans la Bible qui nous explique comment se tenir dans la présence de Dieu, en tout cas, dans l'ancienne alliance. Et maintenant, on va faire un zoom sur le Yom Kippour. Donc là, il s'agit de l'ombre des biens à venir, parce qu'on va voir que tous ceux dont il est question ici, en fait, pointe vers une réalité qui la dépasse et qui est bien meilleure. Mais on verra ça dans un instant. Je vous propose de lire le texte. Hein, donc on a le tabernacle qui est au centre du camp. Hein. C'est comme si on avait planté la centrale nucléaire au milieu et puis on construisait autour. Et toutes les tribus sont réparties autour du tabernacle, qui est vraiment l'endroit central. Et je vais lire maintenant à partir du verset 1 du chapitre 16 du livre du Lévitique. Je vais d'abord lire les versets 1 à 16, puis les versets 20 à 25 et ensuite les versets 33 et 34. Et à la lumière de ce qu'on a dit, vous allez voir, ça va déjà être un peu plus simple de saisir ce que veut dire ce chapitre. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Le ton est donné, hein. Il y en a deux qui ont voulu s'approcher de l'Éternel n'importe comment, ils sont morts. Donc ça rigole pas, hein. Il lui dit, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche, qui est dans le lieu très saint. Voilà de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin. Il mettra sur lui des caleçons de lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. L'assemblée des Israélites lui fournira deux boucs pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des deux sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire ou un bouc pour Azazel. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Après cela, il prendra un plein encensoir de charbons ardents de l'autel de devant l'Éternel et deux pleines poignées de parfum à brûler, réduits en poudre, et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'acte de l'Alliance. Ainsi, il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera l'aspersion avec son doigt sur le côté oriental du propitiatoire, puis il en fera 7 fois l'aspersion devant le propitiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et emportera le sang au-delà du voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau et il en fera des aspersions sur le propitiatoire et devant lui. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour purifier le sanctuaire de l'impureté et des désobéissances des Israélites, de toutes leurs fautes, quelle qu'en soit la nature. Il procédera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Et à partir du verset 20, quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés, toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il le fera passer sur la tête du bouc. Puis, il fera chasser celui-ci au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous les péchés dans un lieu à l'écart. On le chassera au désert. Aaron retournera dans la tente de la rencontre, il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer dans le sanctuaire et les déposera là. Il se lavera à l'eau dans un lieu saint, puis remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires et il sortira pour offrir son holocauste ainsi que celui du peuple afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime du sacrifice pour le péché. Et enfin, les versets 33 et 34, il accomplira le rite d'expiation dans le sanctuaire sacré pour la tente de la rencontre, le rite d'expiation pour l'autel, le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité. Une fois par an, on doit accomplir pour les Israélites le rite d'expiation de toutes leurs fautes. On fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc la présence de Dieu au milieu de son peuple est d'une certaine manière quelque chose de réjouissant. On se dit, chouette, Dieu est avec nous, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur est avec nous. Et en même temps, c'est un sujet de crainte et d'effroi parce qu'on se dit, quand on voit ce qui est arrivé aux deux fils d'Aaron qui ont fait n'importe quoi, Dieu leur avait donné des instructions, ils n'ont pas respecté, ils ont apporté un feu commun, profane, devant l'Éternel, ce qui était interdit. Et certainement qu'ils avaient laissé s'éteindre et ils ont rallumé n'importe comment. En tout cas, on ne s'approche pas de Dieu comme on a envie. Ce n'est pas nous qui fixons les règles, c'est Dieu qui les fixe. Dieu est au milieu de son peuple. Alors comment vivre ? En tant que peuple pécheur et donc marqué par l'impureté, parce que le péché nous rend impurs, sans être détruits par Dieu. En fait, c'est dangereux pour le peuple. Alors, comment se tenir dans sa présence? Comment lui rendre un culte dans ces conditions? Vous avez un Dieu terrifiant. Il ne faut pas oublier, dans l'Ancien Testament, Dieu, fondamentalement, est un Dieu distant. Eh bien, la réponse est simple. Par des sacrifices. Et par des sacrifices sanglants. Il faut que le sang coule, qu'une vie soit donnée. Et parfois même plusieurs. Alors, comment se tenir dans sa présence? On a vu que c'est par les sacrifices, fondamentalement, par les sacrifices sanglants. Et maintenant, j'aimerais vous donner quatre éléments fondamentaux qu'on retrouve dans tous les sacrifices où le sang coule, où une vie est donnée, et qu'on retrouve dans tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et c'est un peu une clé de lecture, la fonction des sacrifices de l'Ancienne Alliance. D'abord, il y a le verbe hébreu qui perd, qui a le sens d'expier, c'est-à-dire de payer pour une faute. Il faut payer pour une faute. Et ça, ça revient avec le... Dans le texte, vous avez ce mot qui est utilisé, ce verbe qui est utilisé plusieurs fois. Et quand on impose les mains ou la main à l'animal qu'on va tuer, c'est comme si on lui transférait nos péchés ou les péchés du peuple. Hein, ça revient dans tout l'Ancien Testament. Troisième élément important, le sang de l'animal égorgé représente conventionnellement la vie ôtée à l'animal. Et l'aspersion de ce sang servait de signe qu'une mort était intervenue pour expier le péché, pour effacer la faute. Et pour payer pour la faute. Et le quatrième élément, il y a souvent l'expression un sacrifice d'une odeur apaisante. C'était pour dire que ces sacrifices étaient là pour apaiser la colère de Dieu. C'est ce qu'on peut aussi appeler la propitiation, rendre Dieu propice, parce que sinon il est en colère contre nous. La relation est rétablie. Dieu est apaisé. Et ça, c'est quatre éléments qu'on retrouve dans tous les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament. Et donc là, au chapitre 16, on a Dieu qui s'adresse à Moïse après la mort de des deux fils d'Aaron, parce qu'ils ont brûlé un feu profane devant Dieu, ce qui était interdit. On le lit au chapitre 10 du livre du Lévitique. Alors vous imaginez, Aaron, il a toutes ces instructions que Moïse lui a données. Il lui a dit, voilà ce que tu feras. Imaginez comme il devait avoir peur. Et j'utilise le mot peur pour pas utiliser autre chose. Il avait les pétoches, il était mal. Parce qu'imaginez une erreur et il mourait. Et il en avait eu le triste exemple avec ses deux fils. Alors le Yom Kippour, on rigolait pas. Vous savez que après on a même mis une clochette au grand prêtre parce qu'ils étaient tellement émus et tellement dans la crainte et tellement anxieux de faire une erreur que certains s'évanouissaient et quand on n'entendait plus les clochettes, on pouvait lui accrocher quelque chose au pied, on l'accrochait avec une corde et on pouvait le tirer en dehors de la tente. Vous imaginez? Si on vous dit, demain, tu vas faire ça, 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 et si tu te trompes, tu meurs. Croyez-moi qu'il devait réviser, hein. Il devait se répéter le truc. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je passe à quoi? Il faut surtout pas que je me plante. Parce qu'on s'approche pas de Dieu comme on a envie, hein. Oh, chacun a sa propre voie, tous les chemins conduisent à Dieu. Non. C'est Dieu qui choisit comment on s'approche de lui. C'est pas nous. C'est pas la créature qui décide. C'est Dieu le créateur. Ce qui est assez cohérent. Et d'ailleurs, cette fête dont il est question en Lévitique 16, ça s'appelle la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon. Et elle se célèbre encore aujourd'hui chez les Juifs. Elle avait lieu, par exemple, entre le vendredi soir du 11 octobre et le soir du 12 octobre 2024. Hein, c'est le dixième jour du septième mois religieux, qui maintenant est aussi devenu le premier mois de l'année civile juive. C'est un grand jour de repos, un jour où l'on doit humilier son âme devant Dieu. Il y en a même qui ont compris que c'est un jour où il fallait jeûner, en faisant un parallèle avec ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe. En tout cas, c'est la fête juive la plus solennelle de l'année. C'est la fête la plus importante. Puisque on prend conscience à ce moment-là, tout particulièrement de son péché, de sa souillure, et l'accent est placé sur la gravité du péché. Le péché, c'est grave, et ça nous empêche de nous tenir dans la présence de Dieu. Et donc, une fois par an, il fallait faire l'expiation des péchés. En fait, ce rituel entraîne une remise à zéro. On reboote le tabernacle. C'est une purification rituelle totale, annuelle. Et qu'est-ce que fait le grand prêtre ce jour-là ? On va le voir, hop. Là, c'est juste pour vous donner quelques éléments d'une vue de dessus du tabernacle ou de la tente de la rencontre. Donc, il y a le grand prêtre qui pénètre dans le Saint des Saints pour faire l'expiation, donc pour effacer les fautes. Et il y a toute une procédure qui doit suivre. Il va d'abord mettre des vêtements blancs en lin, qui contrastent par leur simplicité avec la tenue habituelle, avec tout un décorum. Là, c'est très simple, c'est pour rappeler l'humilité. On n'est pas fier de se présenter avec Dieu pour ses propres péchés, les péchés de tout le peuple. Et en même temps, cette couleur blanche, symbole de la pureté. L'assemblée lui fournit deux boucs. Donc le mâle de la chèvre, pour le sacrifice pour le péché, et un bélier mâle, donc du mouton, pour l'holocauste, pour apaiser justement Dieu. Quel est le rôle de ces deux boucs et de ce bélier ? Les deux boucs et le bélier, c'est l'ombre dont je veux vous parler, parce que c'est eux qui sont au centre du sacrifice. Tout le reste, c'est juste pour préparer. Mais c'est nécessaire pour s'approcher de Dieu. Mais au cœur du sacrifice du Yom Kippour, de Lévitique 16, il y a ces deux boucs et le rôle du grand prêtre. Et ce chapitre, en fait, répond à la question « Comment maintenir la relation avec Dieu ?» Alors, il y a toute une procédure. Premièrement, il y a un taureau qui est offert pour Aaron lui-même et pour sa famille. Parce qu'il ne peut pas s'approcher lui-même de Dieu sans mourir. Donc il doit sacrifier un taureau pour lui-même. Ensuite, il y a un encensoir de charbon ardent de l'autel qui est pris donc par le grand prêtre. Il est le seul à pouvoir faire ça. Il prend de l'encens parfumé. Il passe par le voile une première fois. Il entre dans le lieu saint. Il y a un nuage de fumée qui couvre le couvercle de l'arche, qu'on appelle le propitiatoire, et ainsi il ne mourra pas, parce que Dieu est rendu propice. Hein, donc il va passer le voile, et il va mettre justement un nuage de fumée, d'une bonne odeur. Puis il va chercher le sang d'un taureau, et entre pour la deuxième fois dans le lieu Saint des Saints. C'est pas grave si vous oubliez ça, c'est juste pour vous montrer la complexité du rituel. Il asperge le sang une fois le dessus du propitiatoire et sept fois devant l'arche sur le sol côté oriental. Donc là, il devait se dire, il faut surtout pas que je me trompe de côté, il faut pas que je fasse l'inverse. Les deux boucs sont ensuite placés devant Dieu à l'entrée de la tente et on tire au sort. Et il y a un bouc qui sera pour l'Éternel et qui va être sacrifié et un autre qui sera pour Azazel, qu'on appelle aussi le bouc émissaire. Ensuite, le bouc pour l'Éternel est offert en sacrifice pour le péché et Aaron entre pour la troisième fois dans le Saint des Saints et asperge du sang, justement, de ce bouc sur le propitiatoire et cette fois devant l'arche. Ensuite, on apprend verset 16 que le but de tout ce rituel, c'est qu'ainsi Aaron accomplira le rite d'expiation, donc il permettra d'effacer la faute pour le sanctuaire, pour l'impureté, pour les désobéissances des Israélites, pour tous les enfants, quelle qu'en soit la nature. Donc c'est tout un rituel compliqué, il ne faut pas qu'il se trompe. Puis, on apprend qu'il fait la même chose pour le lieu saint, spécialement l'autel des parfums, et ensuite, il va aussi consacrer l'autel extérieur qui est l'autel des holocaustes. Donc on commence par le lieu très saint, dans le lieu saint, et puis enfin dans le parvis. Et finalement, on arrive au bouc pour Azazel, ou le bouc émissaire. Il y a un homme qui est désigné pour chasser ce bouc et l'accompagner au désert. Et qu'est-ce qu'il fait ? Aaron va imposer les mains au bouc et il va transférer les péchés de tout le peuple symboliquement sur ce bouc et ensuite il est chassé au désert. Alors tout ce système a été instauré par Dieu. C'est Dieu qui donne aux pécheurs le moyen de s'approcher de Dieu. Donc c'est un rappel qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Et ça c'est encore vrai aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul moyen de médiation, on le verra, entre Dieu et les hommes. Et c'est pas l'homme qui choisit. Le péché rend l'homme impur, il ne peut s'approcher de Dieu sans que sa faute, son impureté soit couverte par le sang des sacrifices. Maintenant, revenons à nos moutons, à nos deux boucs. Donc, on se retrouve avec les deux boucs. Quel est le sens de ces deux boucs ? Parce que c'est eux qui sont au cœur du sacrifice. Le premier bouc, celui qui est sacrifié, il y en a un des deux qui va mourir, il va accomplir l'expiation. Il est sacrifié. Il meurt à la place du peuple. C'est la substitution. Et c'est un profond rappel que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, comme nous le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Donc, l'expiation, elle a pour but d'éviter la sanction de mort qui devait suivre le conflit ouvert avec Dieu. Puisque le peuple, par son impureté, se retrouvait en conflit avec Dieu. Il n'était pas dans une relation paisible avec Dieu. Donc il fallait que quelqu'un meure, et cette mort, c'était la mort d'un bouc. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Mais ça, c'est possible que par l'expiation. Et quel est le sens du deuxième bouc ? Il y a un deuxième bouc, et le sens de ce deuxième bouc, c'est d'éloigner le péché, de l'envoyer loin au désert. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Ce bouc a pour fonction, symboliquement, d'éloigner le péché. C'est pour ça qu'il est chassé. Il n'est pas tué, lui. Il est chassé loin. Et Azazel, ça veut dire Ez, ça veut dire bouc, et Azal, ça veut dire s'en aller. C'est ce qui donne le bouc qui s'en va, ou le bouc émissaire. Et il y en a qui pensent que Azazel, c'est un nom pour le diable, mais dans tous les cas, ça représente la même chose. C'est l'idée que le péché est éloigné de Dieu et à la limite, il va dans la présence du diable. Mais c'est pas l'idée qu'on offre quoi que ce soit au diable. C'est plutôt qu'il va dans le domaine du diable. Mais peu importe le sens, c'est l'idée d'éloignement qui prédomine. En fait, le peuple peut continuer à vivre avec la présence de Dieu au milieu de lui parce qu'un animal est mort et que le péché est éloigné. Et il y a les deux dimensions dans ce rituel du Yom Kippour. Dieu s'est occupé du péché, peut alors continuer à vivre avec les Israélites. On peut continuer à vivre avec Dieu au milieu du camp. Mais Dieu reste malgré tout distant, vous vous rendez compte, ça pouvait se faire qu'une fois par an, ça. Une fois par an, le 10e jour du 7e mois. En fait, il y a une distance. Il n'y a rien qui dépasse ce qu'on a dans Apocalypse chapitre 4. quand on voit Dieu sur son trône, tout puissant, et les créatures qui se prosternent devant lui, mais qui sont dans la crainte encore. Crainte révérencieuse, mais qui... Il y a encore une distance avec le Dieu créateur. Dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui, quand Dieu apparaît à Isaïe, quand il se manifeste à Isaïe, Isaïe tombe par terre. Pareil pour Moïse. Dieu est encore distant. On peut déjà être content si on ne meurt pas dans sa présence. Donc, un bouc qui est sacrifié pour permettre d'effacer les péchés, pour payer le prix de la faute, il meurt à la place du peuple, et le deuxième qui éloigne le péché. Hop. Mais il y a encore une distance. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les sacrifices n'ont jamais réglé vraiment le problème du péché. En fait, l'Ancien Testament nous prépare pour quelque chose de meilleur. C'est qu'une ombre d'une réalité qui va venir plus tard. Mais à l'époque, on pouvait déjà placer sa confiance dans ses sacrifices et croire qu'un jour, Dieu réglerait définitivement le problème du péché. Et c'est ce qu'il fera. Et ça nous amène au prochain point, qui est le dernier point, de l'ombre de Lévitique 16 à la lumière de la réalité en Christ. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dans Lévitique 16 pointe vers Jésus. Et d'une certaine manière, tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Et Lévitique 16 nous explique fondamentalement ce qui s'est passé à la croix. Grâce à Lévitique 16, on peut mieux comprendre, parce que c'est imagé, ce qui s'est passé à la croix. Et c'est en ce sens que l'ombre est utile pour comprendre la réalité de la lumière de la croix. Et en fait, c'est une définition que j'ai trouvée de la typologie, mais qui est simple, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que Dieu parle au travers d'illustrations. Et Don Carson dit, et c'est un théologien spécialiste du Nouveau Testament, mais qui est un très bon bibliste, et qui écrit ceci, « Les chrétiens qui lisent leur Bible méditent sur les rapports entre le règne de David et celui de Jésus. » Il y a des parallèles, il y a un qui pointe vers l'autre, dans une certaine mesure. Entre l'agneau pascal, celui qu'on offrait à la Pâque, de l'Exode et Jésus. Parce que quand Jésus est arrivé, qu'a dit Jean-Baptiste, Jean 1:29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Entre le rôle du souverain sacrificateur et celui de Jésus, le grand souverain sacrificateur, c'est ce qu'on a dans notre texte. Entre le tabernacle de l'ancienne alliance dans lequel entraient les sacrificateurs et le saint des saints dans lequel Jésus est entré et sur bien d'autres rapprochements encore. Ces institutions et ces rites annonçaient quelque chose de meilleur. En fait, ils ne sont que l'ombre d'une réalité qui les dépasse. Un type, c'est donc une personne, un événement, une institution qui préfigure Jésus-Christ et ce qu'il apporte. Et Jésus-Christ va nous apporter la réalité qui est bien meilleure que l'ombre qui les préfigurait. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et 10, vous avez l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui utilise ce qui se passe en Lévitique 16 pour expliquer ce qu'a fait Jésus. Et en fait, c'est un bel exemple de comment, dans le Nouveau Testament, ils utilisent une vérité de l'Ancien Testament pour aider à mieux comprendre ce que Jésus a accompli, et en particulier ce qu'il a accompli comme œuvre à la croix. Donc la première chose, je vous ai dit qu'au centre de Lévitique 16, il y a deux éléments. Il y a un grand prêtre, Aaron, le souverain sacrificateur, qui rentrait dans le lieu très saint une fois par an. Et deuxième élément, c'était les deux boucs. Alors on va commencer par le grand prêtre. Le grand prêtre est lui-même pécheur et il doit offrir un taureau pour ses propres péchés et même pour ceux de sa famille. Par contre, Jésus-Christ, il n'y a pas de sacrifice pour lui-même, car il est sans souillure, sans péché. Donc il n'y a pas besoin. C'est pour montrer la supériorité de la réalité par rapport à l'ombre. Il y a une imperfection encore dans l'Ancien Testament. Mais quand même, ça pointait déjà vers la croix et le rôle de grand prêtre de Jésus. Deuxième élément, il y a un accès ponctuel et limité. C'est une fois par an, car on pouvait aller se rendre dans le Saint des Saints et faire l'expiation des péchés pour tout le peuple. Par contre, Jésus, il est rentré une fois pour toutes et l'accès est désormais libre. On a aujourd'hui un accès libre à Dieu. Ce n'est pas une fois par an qu'on peut se prendre dans la présence de Dieu. Et ça, c'est grâce à la croix. Aaron offrait le sang d'un bouc pour les péchés du peuple. Jésus a offert son propre sang. C'est le sang du grand prêtre divin, Jésus-Christ, qui a coulé. Quatrième différence, le sanctuaire terrestre dans lequel est entré Aaron n'était qu'une représentation du sanctuaire céleste dans la présence de la salle du trône de Dieu, dont il est question au chapitre 9, verset 24. Cinquièmement, quand Aaron faisait l'expiation pour les péchés, on sait que le sang des boucs, le sang des agneaux, n'a jamais réglé définitivement le problème du péché. Il fallait le renouveler chaque année. Et c'était dans la mesure où ça pointait vers la croix que cela ça sauvait déjà les croyants de l'ancienne alliance. Mais pas parce que c'était déjà effectif. Alors que Jésus, il est mort une fois à la croix. Et il nous offre une purification véritable. Et le pardon est acquis définitivement. Il n'y a plus besoin de répéter Yom Kippour. Il n'y a plus besoin de répéter ses sacrifices. Donc c'est vraiment pour nous montrer la supériorité de la réalité de la croix par rapport à l'ombre des sacrifices. Mais ces sacrifices sont utiles parce qu'ils nous aident à mieux comprendre ce qui s'est passé à la croix. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux en comparant les deux et en disant, mais vous voyez, ce que Jésus a fait, c'est bien mieux que ce que faisait le grand prêtre de l'Ancien Testament. Jésus est notre grand prêtre ultime, parfait. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de grand prêtre aujourd'hui. Et maintenant les deux boucs, on va finir par eux. L'ombre du premier bouc pointe vers la lumière de la réalité suivante. Il est dit, à propos de Jésus, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs ou de veaux, mais son propre sang. Il nous a aussi acquis un salut éternel. Donc vous voyez là, de nouveau, la supériorité du sacrifice de Jésus par rapport au sacrifice des boucs qui étaient offerts année après année, et tous ces animaux d'ailleurs. Donc c'est vraiment un sacrifice meilleur. Le sacrifice de Jésus est non seulement meilleur, mais il est parfait. Et maintenant le deuxième bouc, l'ombre du deuxième bouc qui pointe vers la lumière de la réalité de la croix. Il est dit qu'il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Il éloigne le péché. Il ôte le péché. C'est cette deuxième réalité du bouc émissaire, celui qui était envoyé dans le désert. Et c'est ce sacrifice qui rend Dieu propice. Sa colère est apaisée et la relation est possible. Et nous arrivons à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cela? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? La première chose, c'est un rappel, c'est que le péché, c'est grave. Et que le péché nécessite l'expiation pénale substitutive. Ça veut dire qu'il faut que le péché soit effacé par un sacrifice. Il faut qu'il y ait une mort. Mort de quelqu'un à ma place, pour être réconcilié avec Dieu. Et Henri Blocher dit que c'est là le cœur vivant de notre foi. C'est le cœur de notre foi. C'est la chose la plus importante. Si on vous demande qu'est-ce qui est le plus important pour vous, c'est la croix de Jésus-Christ et sa résurrection qui nous rappelle que ce sacrifice a été accepté, agréé par Dieu. C'est le cœur vivant de notre foi. Le péché est grave, mais heureusement, il y a une solution. Le premier bouc montrait la manière dont l'expiation avait lieu. Et le deuxième, qui est chassé au désert, montrait les conséquences. C'est-à-dire l'éloignement du péché de la présence de Dieu. Et c'est comme si ce péché n'était plus là. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a fait les deux. Il a fait l'expiation des péchés et il a fait la propitiation des péchés. Les deux sont liés. À la croix, Jésus nous a purifiés de notre péché par sa mort en sacrifice. À notre place, c'est la substitution, et a apaisé la colère de Dieu, une fois pour toutes. Et ce sacrifice parfait permet de s'approcher de Dieu, sans intermédiaire et en tout temps. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est une différence fondamentale avec l'Ancien Testament. Vous n'avez pas besoin de suivre tous ces rites pour vous approcher de Dieu. Il a déjà tout accompli parfaitement à la croix. Quatrième élément, pour bénéficier de ce sacrifice, parce que ce n'est pas quelque chose d'automatique, Dieu seul peut nous sauver, et c'est lui qui a fixé le moyen de médiation. Hein, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on s'approprie ce sacrifice? Parce que lui, il l'a accompli. Ben, c'est par la repentance et la foi. Il faut reconnaître notre état pécheur et notre besoin du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. Et par la foi, placer notre confiance que Jésus-Christ l'a fait. Et c'est ce qui fait que certains connaissent Dieu et d'autres pas. Connaître Dieu, c'est réaliser qu'on est pécheur et qu'on a besoin de lui et que lui a tout accompli à la croix. Et mon dernier point de conclusion, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il a lu Lévitique 16 et qu'il l'a appliqué à la croix, il l'a utilisé pour quelque chose de surprenant. En fait, dans l'Épître aux Hébreux, les personnes étaient tentées de retourner à cause des difficultés qu'ils vivaient, des persécutions. Ils étaient tentés de retourner au judaïsme. Mais peu importe que ce soit une tentation de retourner au judaïsme, ils étaient tentés de tout plaquer. Et peut-être ça vous arrive parfois de dire « Ah, mais la vie chrétienne, c'est compliqué. Après tout, qu'est-ce que ça change ?» Et on peut avoir envie de tout plaquer. Et lui, en Hébreux 9, il dit s'il l'utilise pour encourager les croyants à persévérer. Et c'est ce que j'aimerais aussi faire, parce que c'est pas toujours évident la vie chrétienne. Hein. Il y a des difficultés, des épreuves. Et voilà ce qu'il dit, après avoir expliqué dans Hébreux 9 et 10, quel était le sens vers lequel pointait Lévitique 16, qui pointait vers la réalité de la croix. Et en ayant expliqué tout cela, il dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir. » Peut-être que tu as envie de tout plaquer. Parfois, tu as envie de tout balancer parce que tu te dis, mais qu'est-ce que ça change, la foi? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Il a utilisé tout cela pour encourager les croyants. Et c'est ce que j'aimerais aussi vous laisser.